Loué et remercié soit notre Dieu de ce que réellement nous n'avons pas besoin d'être tristes, mais de ce que nous pouvons avec joie servir notre Dieu parce qu'il nous a accordé sa paix et sa joie dans nos cœurs. Nous n'avons pas nos propres joies, mais il nous a donné sa joie et sa paix. Et c'est pour cette raison que nous pouvons aussi avec joie le servir ici dans le pays du temps. Et comme c'est écrit ici dans ce cantique, nous voulons lui faire confiance ici dans le pays du temps. Là-bas, dans la gloire, nous le verrons. Ici, nous vivons dans la foi, mais là-bas, nous le verrons dans la réalité, mes bien-aimés et frères et sœurs. Mais nous savons que le Seigneur Jésus, alors qu'il marchait sur cette terre, alors qu'il fut crucifié et qu'après, il a été dit qu'il est ressuscité, alors, il y en a qui ne voulaient pas croire. Et ils voulaient justement dire, nous voulons d'abord voir avant de croire. Mais quand ils l'ont rencontré, alors il a reproché leur incrédulité et leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru? Heureux, bénis sont ceux qui ne voient pas mais qui croient. Mais bien aimé, même si maintenant nous croyons, nous ne voyons pas encore, mais nous croyons de tout notre cœur. Et alors, l'heure arrive, le moment arrive où il se révélera à nous et où nous serons auprès de lui, où nous serons avec lui. Et pour cela, nous sommes très heureux et reconnaissants. Ce cantique ici l'exprime de manière si merveilleuse. Faisons-lui confiance ici dans le pays du temps. Dans la gloire, nous le verrons. Ça, nous voulons le faire de notre cœur aussi ce matin. Pendant la prière, avant la prière, je voudrais lire un passage d'un psaume, peut-être le psaume 89, comme introduction. J'aimerais lire psaume 89 et ensuite nous allons prier ensemble. Ici, il est dit d'une manière si merveilleuse, je chanterai toujours les preuves de grâce de l'Éternel en allemand, les bontés de l'Éternel en français. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car tu l'as promis, ton alliance de grâce sera fondée éternellement. Tu as établi ta fidélité dans les cieux. J'ai fait une alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affirmerai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Ça, c'est une parole merveilleuse que nous venons de lire et que nous avons déjà lue. Cet homme de Dieu dit ici, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, en allemand les preuves de grâce de l'Éternel, et jusqu'aux générations futures, je ferai connaître ta fidélité, en allemand, ta fidélité, les générations futures. Je ne sais pas comment les choses vont pour vous, mais ça ne peut pas aller différemment. Bien-aimés frères et sœurs, si nous avons rencontré le Seigneur, nous ne pouvons rien faire d'autre que de chanter et de faire connaître aux hommes sa fidélité et de chanter à haute voix sa fidélité et sa bonté et sa grâce tous les jours de notre vie, que ce soit que nous soyons jeunes ou bien que nous soyons déjà avancés en âge. C'est la même chose, cela ne change rien dans notre vie, mais nous restons fidèles à celui qui nous a élus, qui nous a appelés, qui a fait de nous son peuple. Et alors nous ne pouvons rien faire d'autre que nous soyons jeunes ou bien avancés en âge, ou bien que nous ayons vieilli dans la chair. Nous ne pouvons rien faire d'autre que de chanter les bontés de notre Dieu et sa grâce et de faire connaître cela aux hommes. Bien, frère, ça c'est quelque chose de merveilleux. Pas comme certains sont parfois comme ça et une autre fois comme ça. Parfois, ils sont croyants. Tout d'un coup, un jour, ils ne sont plus croyants et de nouveau, ils sont encore croyants. Ou bien alors, de nouveau, ils sont encore incrédules ou bien incroyants. Non, je pense que les élus de Dieu, ils ont l'élection, l'élection qu'ils ont reçue et ils savent que tous les jours de leur vie, ils savent à qui ils croient et ils savent à qui est-ce qu'ils restent attachés. Pour eux, il n'y a pas une fois d'être comme ça et une autre fois d'être encore autrement. Mais regardez les vrais hommes de Dieu. Regardez, depuis le commencement jusqu'à la fin de leur vie, ils ont, n'est-ce pas, loué les bontés de l'Éternel et ils en ont parlé. Ils en ont rendu témoignage. Paul à qui la grâce de Dieu avait apparu, celui à qui le Seigneur avait apparu sur le chemin de Damas, il a loué le Seigneur devant les grands et les petits, devant les rois et devant des grands docteurs et devant les hommes ordinaires. Il n'a rien hésité à faire. Il n'a pas manqué de porter et de témoigner de la bonté, de la grâce de l'Éternel et de faire connaître sa fidélité. Car tu as promis le verset 4, verset 3, car toi le Seigneur, tu l'as permis, tu l'as promis. Ton alliance de grâce sera fondée éternellement. C'est de ça qu'il s'agit. Pas pour un jour ou pour deux jours, aujourd'hui comme ça, demain comme ça, pas une fois comme ça, une autre fois comme ça, non. L'alliance de grâce, au verset 3, de l'Éternel, notre Dieu, est fondée pour toujours. Nous l'avons lu. La bonté a des fondements éternels. Non, l'alliance de grâce de notre Dieu est fondée éternellement. Et cette alliance de grâce a été établie pour toujours, en allemand. Mes bien frères et sœurs, pas une fois comme ça et une autre fois comme ça. On ne sait pas où on appartient. Parfois, on croit ceci, après on croit autre chose. Selon tout vent, se diriger selon chaque vent de doctrine. Non, mais nous pouvons dire que Dieu nous a accordé sa grâce, comme nous l'avons entendu hier soir dans la parole de Dieu, que entièrement nous nous dirigeons d'après sa parole et seulement d'après les Écritures. Et nous sommes heureux et connaissants pour cela. Tu établis ta fidélité car tu as promis que ton alliance de grâce est fondée pour toujours et réellement elle est établie pour toujours. Fondé pour toujours. Dieu ne retire rien. Et si quelque chose est retiré, ce sont les hommes qui le font, mais pas Dieu. Dieu ne retire rien de tout, de ce qu'il a promis, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Et cela reste valable. C'est merveilleux. Cela reste valable. Ton alliance de grâce reste fondée éternellement, en allemand. Reste fondée éternellement. Tu établis ta fidélité dans les cieux. En allemand, au verset 4, j'ai fait alliance avec mon élu. Oui. Et pas seulement avec David, mais avec ses élus, jusqu'à dans nos jours. Oh, ça c'est merveilleux. Bien, mes frères et sœurs, c'est une grande joie. Ça devrait nous remplir de joie. Oui, servez le Seigneur avec joie. Ça c'est ce qu'il nous demande. Est-ce que nous ne devrions pas être heureux et joyeux? Je ne sais pas, nous ne pouvons rien faire d'autre. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Donc pour toujours, en tout temps. Et nous pouvons dire que ce que le Seigneur promet, ça, il le fait certainement. Oh, pour cela, nous lui en sommes très reconnaissants. Encore ce matin, nous voulons avec joie, encore ce matin, l'adorer et ensemble, nous voulons le faire, levons-nous. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, ce matin encore, nous sommes de nouveau ici rassemblés dans ton nom merveilleux. Nous te remercions, Seigneur, de ce que ton alliance de grâce est éternellement fondée, et pas seulement pour un jour ou deux jours, ou bien pour un an ou bien deux ans, mais fondée, établie et reste fondé et établi pour toujours, éternellement. Que ton nom, à ton nom soit la louange et la gloire. Ce que tu as dit, ce que tu as promis, tu le fais. Nous sommes tellement reconnaissants encore ce matin de ce que nous pouvons t'adorer, de ce que nous pouvons venir à toi, de ce que nous pouvons regarder à toi. Ô Seigneur Jésus, nous t'adorons de tout notre cœur. Ôte de nous tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui ne te plaît pas, et que ta gloire soit manifestée dans nos cœurs, dans nos vies, pour qu'avec joie nous puissions, Seigneur, ouvrir nos bouches pour louer ton saint nom. Seigneur, comme ce cantique l'a chanté, servez le Seigneur avec joie. Ça, c'est ce qu'il nous demande. Venez avec allégresse pour son honneur. Ça, nous voulons le faire et nous ne voulons pas l'oublier. Mais en tout temps, quoi qu'il nous arriverait, bien ou mal, nous regardons, Seigneur, comment les disciples, quand ils ont été jetés en prison, ils ont commencé là aussi, là-bas, à louer ton Saint-Nom et à chanter des cantiques à ton nom et à ton honneur. Seigneur, nous sommes libres. Nous sommes aussi libres, nous. Nous ne sommes pas en prison. Comment est-ce que nous ne devrions pas te louer et t'exalter, Seigneur, et t'apporter des louanges et de l'allégresse? Oh Seigneur, que tu puisses toi-même accorder nos cœurs pour que nous puissions le faire de la bonne manière. Nous t'adorons et louons ton Saint-Nom. Seigneur, que tu puisses encore être avec nous et nous bénir de la plénitude de ta grâce. C'est ma prière dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Aujourd'hui, ce matin, je voudrais rapidement faire mention de ce que Dieu a fait. Car pour plusieurs, c'est peut-être pas encore connu que le Seigneur, réellement, d'une manière surnaturelle, mais visible, de manière visible, est descendu à parler et à donner des ordres dans notre génération. Et avant de montrer les photos des magazines des États-Unis, je voudrais lire du prophète Ézéchiel. Et cela, Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel chapitre 1, verset 28. Ézéchiel 1, chapitre 1, verset 28. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit, qui apparaît dans la nuit, dans les nuages en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire, c'était l'image de la gloire de l'Éternel. C'était l'image de l'apparition en allemand, de la gloire de l'Éternel, l'apparition. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Nous voulons prier. Père céleste, nous te demandons dans cette heure, d'une manière très particulière, que tu puisses être proche de nous et que tu puisses nous donner la compréhension correcte et ôter toute incrédulité et tout doute et rétablir la relation, la communion avec toi et d'être lié avec toi. Et nous nous plaçons consciemment sous le couvert du sang de l'agneau et sous la conduite de ton Saint-Esprit. Avec crainte, je voudrais parler, Seigneur, de ce que tu as fait dans nos jours. Seigneur, ta révélation est sainte. Ta parole est sainte, car tu es saint. Et nous te demandons, sanctifie-nous aussi dans ta vérité. Que ton esprit en nous soit sanctifié et que ta parole soit confirmée. Aide-nous et soit proche de nous, dans le Saint Nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. J'ai aujourd'hui, avec esprit, amené les publications des États-Unis. C'est le Life Magazine. Sûrement que dans toutes les publications, vous avez déjà entendu parler de ça. Et aussi, cette apparition de la nuée, ici sur cette page, dans ce grand magazine, qui à l'époque a été publié en Amérique, alors que le Seigneur, dans la nuée, avait apparu le 28 février 1963, avait apparu à Frère Branham. Bien sûr que la photo est prise de plus de 300 km, d'une distance de plus de 300 km, mais ici, j'ai le Science Magazine, en allemand, oui, le magazine scientifique, le Science Magazine. Et ici, nous avons la première page, n'est-ce pas, la même photo de l'apparition de la nuée. Quand nous lisons la parole de Dieu, j'ai encore apporté d'autres coupures de journaux. Ici, c'est peut-être pas trop important, mais celui qui veut les voir peut les voir. Je les ai apportés en tout cas, en tous les cas. Et aussi cette photo la plus connue est sûrement celle-là ici. Alors que le Seigneur, dans la colonne de nuée, était descendu. Et nous savons que la même chose de deux manières est décrite. Une fois en tant que colonne de nuée et une fois en tant que colonne de feu. Le jour, c'était une colonne de nuée et la nuit, c'était une colonne de feu. Les deux étaient la même gloire et la présence de Dieu. De cette manière, le Seigneur était avec Israël pendant les 40 ans de marche, car la colonne de feu ne se retirait pas de la nuit et la colonne de nuée ne se retirait pas de la journée. Alors, quand nous lisons dans la Bible, ici par exemple, du prophète Ézéchiel, et je vis l'apparition de la gloire de l'Éternel. C'est ce que nous avons lu au verset 28 du premier chapitre d'Ézéchiel. Alors, c'est différent. Quand quelqu'un dit aujourd'hui, par exemple, où j'ai expérimenté la gloire de Dieu, peut-être qu'il veut dire une expérience qui a été exprimée dans sa vie, mais est-ce que pendant l'expérience, il a vu et entendu réellement quelque chose, comme on peut le lire dans Ézéchiel 1, verset 28? Ça, c'est... Il faut que cela soit éclairci et prouvé. Mais quand les prophètes parlaient de la gloire de Dieu, alors ils avaient vraiment vu quelque chose de surnaturel, et ça c'était la manière avec laquelle le Seigneur apparaissait. Les hommes ne voyaient pas le Seigneur, mais ils voyaient l'enveloppe, ils voyaient la nuée de gloire, la lumière dans laquelle il était enveloppé. Par exemple, alors que le Seigneur fut né là-bas à Bethléem, il est dit, et la gloire du Seigneur a apparu au berger. Dans Luc 2, verset 9, le Seigneur fut né là-bas, mais la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Cette nuée surnaturelle a apparu là-bas au berger sur le champ et la voix a retenti. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Cette nuée de gloire, après presque de 2000 ans, pour la première fois, a apparu visiblement, comme dans Luc 2. Et c'est en cela qu'est la chose extraordinaire. Si dans le déroulement de l'histoire de l'Église, cela avait eu lieu toujours de nouveau, alors rien d'extraordinaire aurait été que cela ait apparu dans notre temps. Mais seulement en raison de ce fait qu'après presque 2000 ans, quelque chose de comparable n'avait pas eu lieu durant ces 2000 ans. C'est maintenant dans notre temps que cela a eu lieu. Et pourquoi est-ce que c'est dans notre génération? Pourquoi est-ce que à la fin des jours, à la fin du temps de la grâce, le Seigneur est apparu? Pourquoi est-ce que c'est justement dans notre temps qui, de la même nuée surnaturelle telle qu'on l'a lu dans Ézéchiel 1, verset 28, de la même manière, il s'est révélé, il a apparu et il a parlé comme dans l'Ancien Testament, comme dans les jours de Moïse et ici chez Ézéchiel, aussi dans Daniel. Daniel aussi a vu la gloire du Seigneur et ensuite les bergers l'ont vu aussi. Paul aussi a vu le Seigneur qui lui est apparu dans la nuée de gloire. Ses yeux ont été aveuglés par cette lumière dans Actes des Apôtres chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9. Et Paul ne pouvait plus voir quand il a dit « Qui es-tu Seigneur ?» La réponse a été « Je suis Jésus que tu persécutes. » Vous pouvez le lire dans Actes 9. Et qui est-ce qui persécutait? Il persécutait les croyants. Et qui étaient les croyants? C'était des membres du corps de Jésus-Christ. Et tout ce qui est fait au sien est fait à lui, est fait contre lui, est fait à lui. Donc, ce que nous faisons au plus petit de ceux qui lui appartiennent, c'est à lui que nous l'avons fait. Nous savons que Paul avait un appel extraordinaire. Et parce qu'il avait ce mandat divin, ça ne pouvait pas être seulement une chose dont il avait pensé. Il fallait que ce soit un mandat direct du Seigneur. Il fallait qu'il existe dans sa vie un mandat direct du Seigneur avant de pouvoir exécuter ce devoir. Il fallait qu'il y ait un mandat divin. Et c'était le cas pour Paul. Le Seigneur, lui, est apparu dans la nuée, dans la colonne de nuée, dans cette grande gloire, lumière de gloire de Dieu, et lui a parlé audiblement. Actes apôtres 9, vous pouvez le lire. Et c'est depuis lors que Paul, devant les grands et les petits, devant les rois, il pouvait rendre témoignage de ce qu'il avait expérimenté. Personne pouvait lui renier cela et disputer cela. Et ensuite, il y avait des frères dans son temps qui ont dit, mais qui est Paul? Mais qui est cet homme? Et ils n'ont pas prêté l'oreille à ce qu'il disait. Ça, ce n'est pas comme ça seulement aujourd'hui. Cela a toujours existé et ça a toujours été ainsi. Mais tel que hier, nous l'avons lu, celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu, la parole de Dieu. Jean 18, verset 37b. Et si quelqu'un est envoyé avec la parole de Dieu, alors nous devons écouter ce que Dieu a à nous dire. Ézéchiel vit la gloire de l'Éternel. Il pouvait la décrire et disait tel aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie, qui apparaît dans la nuée en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était l'image de la apparition de la gloire de l'Éternel en allemand. À cette vue, je tombais sur ma face, le verset 28, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. C'est la même chose aussi qui s'est passé pour frère Branham. Personne devrait penser que nous serions insensés et à vouloir ne serait qu'un seul moment rendre un culte à un homme. Rien n'est plus loin de nous que ça. C'est comme ça. Et Aussi, cela est loin de nous de penser à passer à côté de ce que Dieu nous a apporté et a fait pour nous. C'est impossible. Nous ne pouvons pas passer à côté de ce que Dieu a fait et a apporté et malgré tout vouloir subsister devant lui. Prétendons, et ça nous le prétendons pas seulement, c'est une réalité divine. Le Seigneur a parlé à Frère Branham et depuis son enfance, son plus petit âge, il a parlé déjà avec lui, il pouvait dire la première chose à laquelle je me rappelle, c'est une vision que Dieu m'a montrée. Avant même de pouvoir penser ou bien faire quelque chose, il peut se rappeler d'avoir vu une vision. Et il disait mot à mot, il n'avait même pas 3 ans quand cela a eu lieu. Il portait encore un long vêtement comme les enfants autrefois avaient porté. Et il disait, mon oncle est entré dans la salle, dans la pièce. C'était l'hiver, il avait de la neige sur ses chaussures. Et je suis allé pour lui enlever la neige des chaussures parce qu'il était venu nous rendre visite. Et pendant que je voulais faire ça, je vis une vision. Imaginez-vous, un petit enfant qui n'a même pas, qui peut à peine marcher, qui n'a même pas 3 ans. Et malgré tout, il est né déjà prophète. Il était né déjà prophète. Nous l'avons déjà entendu. Les prophètes ne deviennent pas après leur conversion. Ils sont, en tant que prophètes, nés déjà dans ce monde. Et pour que vous puissiez savoir que cela est écrit dans la Bible, je vais vous le lire. Car beaucoup de choses peuvent être dites, mais si ce n'est pas écrit dans la Bible, alors vous pouvez l'oublier. Ici, c'est écrit dans Jérémie, le premier chapitre, verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Non, je cherche cette parole. Non, je voulais lire le verset 4. Verset 4 plutôt. La parole d'Éternel me fut adressée à ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. En allemand, je t'ai choisi. Et avant même que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant que il soit sorti du sein de sa mère, avant même qu'il fût formé dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait consacré et établi prophète pour les nations. Prophète a un caractère lié à l'histoire du salut et d'une dimension mondiale. De telles personnes sont déjà depuis le sein de leur mère déterminées par Dieu, ont été déterminées par Dieu à être porteurs et à porter sa parole et à révéler sa volonté. Et ils ne consultent pas la chair et le sang, mais Dieu parle avec eux directement, audiblement et en vertu d'un mandat divin et d'une inspiration divine. Ils prêchent et ils annoncent la parole révélée de Dieu. C'est ainsi que c'était avec tous les prophètes et avec Qu'est-ce que je devrais dire? Je voudrais presque dire avec une profonde, avec une fierté. Je m'excuse de cette expression. Peut-être que ça passe sa place ici dans ce domaine. Mais malgré tout, j'aimerais le dire. Avec, donc pas avec de l'orgueil, mais avec une fierté devant Dieu. Je regarde à ce que Dieu a fait. Pas avec de l'orgueil. Je regarde au choix qu'il a pris dans l'homme le plus simple des montagnes du Kentucky. Un hillbilly, c'est ainsi qu'ils l'ont tous appelé, quelqu'un qui ne maîtrisait même pas la grammaire, qui confondait toi et moi, mais qui avait un discernement clair, mais qui ne pouvait même pas discerner entre certains mots, la différence, et qui confondait les mots. Mais cet homme a parlé de la part de Dieu, et d'autres l'ont regardé avec mépris. Il disait, et j'ai repris ça en mots, Hillbilly, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas la grammaire, qui confond le moi et le toi, mais qui fait bien la différence entre le mien et le tien. Get next to yourself. Comment on peut traduire ça? Tout d'abord, retrouve-toi, retrouve tes sens, viens à toi-même. Ces grands hommes-là, ils auraient dû comprendre que c'est eux qui devaient retrouver leur sens et que c'est eux que Dieu voulait corriger. Il ne s'agissait pas que l'un et l'autre viennent pour corriger ce prophète. Ils auraient dû reconnaître que Dieu avait envoyé ce prophète pour les corriger eux-mêmes, pour les corriger, pour les faire sortir de l'erreur et les pénétrer de sa véracité divine. C'est de ça qu'il s'agit. Si quelqu'un veut nous faire ce reproche et dire, écoutez, vous avez cet homme-là. Nous n'avons pas cet homme. Dieu a établi cet homme. C'est Dieu qui établit dans l'Église des prophètes, des apôtres, des prophètes, des bergers, des docteurs et des évangélistes. Et laissez-moi aujourd'hui le dire, là où Dieu n'a pas dans l'Église, ne peut pas établir dans l'Église, ces ministères-là, l'Église ne peut pas non plus être édifiée, car le Seigneur lui-même, dans sa parole, a laissé dire, vous pouvez le lire, Éphésiens chapitre 4 et 1 Corinthiens 12, verset 28 et d'autres Écritures, que Dieu a établi dans l'Église ses ministères, Éphésiens 4, verset 11, pour que justement, pour le perfectionnement des saints et pour l'édification de l'Église. Donc, si le ministère prophétique qui est au-dessus des ministères de l'Église est rejeté par l'Église, comment est-ce que alors l'Église peut être édifiée si ce qui est accordé pour son édification n'est pas accepté par l'Église? Alors ce sont les hommes qui édifient, et c'est-à-dire chacun selon sa manière. Et c'est toujours une tour. Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, va renverser tout et tout est détruit. Non, et tous sont déjà convaincus, confondus. Non, il ne s'agit pas que nous soyons convaincus d'être en train de bâtir quelque chose. Non, c'est le Seigneur lui-même qui bâtit son Église. Et pour qu'il puisse bâtir son Église, il faut que nous puissions lui donner la possibilité de le faire, c'est-à-dire d'établir son ordre dans son Église, de rétablir son ordre dans son Église. Ce ne sont pas des gens qui viennent d'un séminaire, d'une école appelée biblique, mais des hommes établis par Dieu, appelés par Dieu, appelés au ministère. Et comme c'est écrit dans Romains 12, des hommes envoyés de Dieu. Combien de fois nous avons dit en insistant, quand nous lisons dans les Saintes Écritures, Jean était un homme envoyé de Dieu. Là, quand je lis cela, mon cœur loue. Quand on sait que c'est un homme qui est envoyé de Dieu, il parle mandaté. Donc, il parle de la part de Dieu. Et il apporte la parole de Dieu au peuple de Dieu et il révèle la volonté de Dieu au peuple de Dieu. Et nous avons affaire à... Quand on a affaire à ça, on doit accepter, recevoir et remercier le Seigneur pour cela. Vous savez, quand Frère Branham priait pour les malades, alors, cette nuée, cette colonne de nuée venait dans la salle, dans l'église. Et combien de fois il a dit, « Maintenant, je vois la lumière sur toi, suspendue. Maintenant, je vois la lumière suspendue sur toi. Le Seigneur me montre ceci et cela sur toi. » Qu'est-ce que c'était? C'était une action directe du Seigneur ici sur cette terre. Celui qui est dans la gloire, malgré tout, peut dans cette nuée de gloire se révéler et se manifester ici sur cette terre, étant au ciel. Vous savez, car Dieu est au ciel et sur terre, nous ne pouvons pas le limiter. On ne peut pas dire, bon, s'il est ici, il n'est pas là-bas. Non, il est dans ton cœur et dans mon cœur en même temps. Il est au ciel et il est aux extrémités de la terre, où partout où nous allons, sommes, il est. Mais maintenant, il s'agit de reconnaître que nous vivons dans un âge prophétique. Et que Dieu a envoyé un prophète pour corriger de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22, utiliser les Écritures pour corriger et pour donner à l'annonce de sa parole une ligne droite par les Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a quelqu'un qui me demande, un frère me demandait, mais comment est-ce que nous pouvons accorder ce que Moïse a dit, ce que Paul a dit, ce que le Seigneur a dit, ce que les apôtres ont dit, apporter ça en accord et en unité? Ma réponse a été simple. Si ce que Dieu a dit par Moïse, par tous les prophètes, par ce qu'il a dit par tous les apôtres, et par ce qu'il a dit lui-même, si nous ne pouvons pas apporter ça à un dénominateur commun, en une seule unité, en une seule chose. Donc ça veut dire qu'avec nous-mêmes, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne peut pas se contredire. Il était celui qui avait parlé par Moïse. Il était celui qui avait parlé par les prophètes. Il était celui qui avait parlé lui-même ici sur cette terre. Il était le même qui avait parlé par les prophètes, par les apôtres. Le même qui avait parlé par les apôtres. Et si quelqu'un veut me dire, oui, mais ce qui est écrit ici est contraire à ce qui est écrit dans les prophètes, alors ça veut dire que vous êtes levé trop tard. Alors moi, j'appartiens à ceux qui se lèvent plus tôt, qui se sont levés plus tôt. Et personne ne peut me dire qu'une parole parle contre l'autre et contredit l'autre dans la Bible. Non, c'est toi qui parles contre la parole et qui contredit la parole. Mais ce n'est pas la parole qui contredit la parole. La contradiction est toujours en nous, la contradiction, et pas dans la parole de Dieu. Comme c'est merveilleux de ce que Dieu, dans ces derniers jours, a, d'une manière si merveilleuse, résumé tout. Et pour moi, c'est quelque chose de très grand. Et là, nous avons appris que le Seigneur, toujours de nouveau, a révélé des choses qui sont restées cachées. Par exemple, comme hier, déjà je le mentionnais, il y en a qui demandent, mais pourquoi est-ce que cela n'a pas été annoncé déjà à l'avance? Dieu a eu des grands hommes, un Moody, comme ils se sont tous appelés, bien sûr que c'était tous de grands hommes. Mais le temps n'était pas encore arrivé, venu. Et tous ces hommes-là étaient des évangélistes. Et ils n'étaient pas des prophètes. Et la parole du Seigneur vient aux prophètes. Donc, Dieu a attendu jusqu'à que l'âge prophétique arrive. Et c'est pour cette raison qu'il a envoyé un prophète pour révéler la parole prophétique. Jérémie et tous les prophètes, vous pouvez commencer avec Moïse et partout vous pouvez le lire. Ils étaient de la part de Dieu déterminés à un devoir extraordinaire, particulier. Ça n'a pas d'importance ce qui s'était passé dans leur vie ou bien venait et partait. Le sens et l'objectif divin étaient au-dessus de tout le terrestre. Et je le dis aujourd'hui, dans la vie d'un enfant de Dieu, le sens et l'objectif divin est ordonné au-dessus de tout le déroulement terrestre de sa vie. L'objectif divin est à la première place. Et si tout le reste dans notre vie va de travers et se brise, oui, que cela nous importe. Seulement si Dieu, lui, reçoit ce qui lui revient avec nous et peut atteindre son but avec nous et que nous pouvons passer de la foi à la vue de ce que nous avons reçu comme promesse ou bien de ce qu'il nous a promis. Tout le reste, de toute manière, restera derrière nous, nous n'allons pas l'emporter avec nous. Et malgré tout, nous nous donnons tant de soucis pour les choses terrestres et les choses passagères. Non, le Seigneur, lui, a apparu au prophète dans sa gloire surnaturelle, car ils avaient déjà été déterminés depuis le ventre de leur mère à exécuter un devoir particulier. Justement, ici, peut-être déjà dans sa première année scolaire, représentez-vous cela. Ici, il y a dans sa première année scolaire, il y a un prophète sur lequel le Seigneur a sa main. À sa main. Et vous savez, alors qu'il était venu en Allemagne et est allé en Suisse, ce n'est pas un secret. Il le dit dans les prédications. Il a fait cette remarque. Et tous buvaient leur bière et leur vin pendant leur repas. En Allemagne, c'était la bière. Et je crois que en Suisse, à Lausanne, c'était le vin. Et ils sont allés à Frère Branham et ils lui ont dit, mais écoute, tu dois aussi boire avec nous. Et Frère Branham a dit, mot à mot, comprenez, je suis un consacré du Seigneur. Je n'ai pas le droit de boire. Et le Seigneur, Dieu me ne le permet pas. Et alors il leur a dit, mais vous pouvez boire votre vin et votre bière à votre repas. Moi, je bois mon eau. Maintenant, il y en a des frères qui disent, Frère Branham n'a pas bu une goutte d'alcool, donc tous les croyants ne doivent pas non plus boire. Si vous le faites, que Dieu vous bénisse. Moi, je bois avec vous l'eau, et plus claire l'eau est, et mieux cela sera pour moi. Mais si je suis quelque part et que un petit verre de vin m'est offert, je le bois aussi. Moi, le Seigneur ne m'a pas donné cet ordre de ne pas boire. Et nous voyons même avec Paul qu'il a dit à Timothée, bois un peu de vin à cause de tes problèmes de ventre. Il y en a qui prennent des instructions qui sont adressées personnellement à un homme et ils le prennent comme une doctrine, ils le généralisent et ils en font une doctrine pour tout le monde. Et ça, Dieu ne le veut pas. Dieu veut que tu marches avec lui dans le chemin qu'il a pour toi. Est-ce que vous avez bien compris ça? Nous ne sommes pas ici pour dire à quelqu'un ce qu'il doit manger ou bien ce qu'il ne doit pas boire ou bien boire. Nous sommes seulement ici pour dire que Dieu, avec ses prophètes, devait suivre un chemin bien particulier. Regardez ce que le Seigneur avait dit à Samson. Il n'avait pas le droit de se couper les cheveux. Et malgré tout, il est écrit dans la parole de Dieu que si un homme a les longs cheveux, c'est un déshonneur pour lui. Et c'est comme une femme, si elle a de longs cheveux, c'est un honneur pour elle. C'était à Samson que Dieu a fait une exception. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu doit te dire aussi, te poser la question, Dieu a le droit de faire ce qu'il veut? Est-ce qu'on va faire une doctrine que de dire maintenant tout le monde doit se laisser pousser les cheveux? C'était quelque chose qui était à Samson. Dieu, dans tous les temps, d'éternité en éternité, a donné des ordres. Et heureux ceux qui ne se heurtent pas à ces choses et comprennent de la bonne manière tout. Et ceux qui marchent dans la lumière ne se heurtent pas de toute manière, ne trébuchent pas. Il y en a qui disent, oh, il m'a heurté, cela, ce qu'il fait a été une occasion pour chute, de chute pour moi. J'ai déjà souvent entendu ça. Moi, pas une seule personne a déjà été pour moi une occasion de chute. Personne, rien. Jamais quelqu'un a... Je me suis heurté à ce que quelqu'un fait. Je ne sais pas pourquoi. Pas aucun homme, jamais. Et vous savez ce que les Saintes Écritures disent? Celui qui marche dans la lumière, il ne se heurte pas. Donc, où est l'heurte? Quand quelqu'un marche dans les ténèbres, alors cela peut arriver qu'il se heurte. Et il dit, oh, je me suis cogné, et il trébuche. Mais il a été dans les ténèbres. Sinon, il n'aurait pas eu cette heurte, car il aurait vu l'obstacle. Il n'aurait même pas besoin de trébucher. Il aurait évité l'obstacle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Celui qui marche dans la lumière, il n'a pas d'occasion de chute pour lui. Et si nous marchons dans la lumière, tel que lui, il est la lumière, alors nous avons communion les uns avec les autres et avec lui. Et le sang de Christ nous purifie. Alors toutes les choses terrestres, toutes les disputes à cause de choses terrestres, alors tout cela est passé. Alors, nous avons les choses ordonnées de la part de Dieu au-dessus de toutes choses. Et nous laissons chacun sa liberté personnelle. Ça devient très grave quand les gens veulent placer l'autre dans une obligation. Ça ne doit jamais exister. Paul dit que celui qui veut manger de la nourriture solide qui le fait, qu'il le fasse, et que celui qui ne le veut pas, qu'il ne le fasse pas, mais que l'un ne juge pas l'autre. Chacun dans le domaine terrestre doit faire ce qu'il fait sans être obligé de rendre compte aux autres. Nous devons aller au-delà de toutes ces choses. Nous ne pouvons pas pour toujours comme ça rester attaché à des choses terrestres. Et ne vous étonnez pas. Il y a des petites choses qui peuvent devenir de grands problèmes. Et après qu'on en a fait de grands problèmes, cela est pour nous maintenant devenu un grand obstacle. Je dis aujourd'hui, il n'y a pas plus de problèmes que ce que nous nous en faisons nous-mêmes. Et tous sont grands et petits tels que nous les estimons et faisons concernant les problèmes. Dieu doit nous faire grâce à reconnaître que c'est la malice du diable, de l'ennemi, d'une mouche en faire un éléphant et de les placer devant nous comme un obstacle, de manière que, au lieu de lire Romains 14 entièrement et de le mettre en pratique, on est en train de faire toute autre chose. Dieu veut que nous puissions laisser toutes ces choses et que chacun est sa liberté, conserve sa liberté personnelle. Mais rester dans le cadre de la parole de Dieu, la liberté d'un enfant de Dieu est dans le cadre de la parole de Dieu. Et jamais notre liberté pourra sortir du cadre des Écritures. Et si nous avons compris ça, alors nous allons aussi comprendre que ce que Dieu a accordé est plus précieux et plus important que toutes ces choses terrestres que nous voyons ou bien que nous, auxquelles nous nous arrêtons. Il faut qu'avec l'aide de Dieu, cela nous réussisse à laisser tout sous nos pieds de la foi et recevoir tout sous nos pieds de la foi et de reconnaître l'heure de Dieu dans laquelle nous sommes arrivés et de nous tenir à la disposition de Dieu dans le dernier devoir qui a été donné à l'Église. Tant que nous restons encore arrêtés et que nous voulons mettre de l'ordre et mettre de côté dans les petites choses que nous avons les uns avec les autres, nous ne sommes pas encore aptes à nous occuper du devoir que Dieu a donné à l'Église. De la même manière, tel que Dieu a appelé Frère Branham et a parlé par lui, et par cela, maintenant, à la fin des jours, appelle une Église épouse à sortir. De la même manière, il faut que cette épouse Église appelée à sortir, qui est sortie, se place, se mette à la disposition du devoir que Dieu lui a donné à remplir. Frère Branham, lui, il a rempli son devoir, son mandat. Moi, je dois remplir le mien, toi, tu dois remplir le tien. Et nous tous, nous avons un devoir devant Dieu. Et ensemble, nous devons remplir notre devoir. Mais, en fait, ce n'est pas notre devoir, notre appel, notre mandat, mais c'est son envoi dans ce temps auquel tous nous prenons part. C'est son envoi, son appel. Et c'est ça qui fait la différence entre toutes les courants spirituels et entre ce que Dieu fait dans ce temps en accord avec sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est ça la différence. Et il y a une parole qui est écrite. C'est ça la différence entre tous ces courants spirituels et entre ce que Dieu fait. Ces promesses reste valable. Je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel arrive. Quand le temps fut arrivé, Dieu a veillé sur sa parole de Malachie 4 au verset 5 pour l'accomplir et a envoyé un prophète avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, comme c'est écrit dans Malachie 4 au verset 5. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu doit s'accomplir. Et laissons chaque parole révélée. Nous voulons l'accepter telle qu'elle est sortie de la bouche du Seigneur. Et alors nous serons secourus. Et j'ai vraiment encore une demande, et que cela ne soit pas pris par personne personnellement. Nous voulons arrêter d'enseigner l'un et l'autre, de s'enseigner l'un l'autre. Nous ne sommes pas là pour nous enseigner les uns les autres. Nous voulons tous, sous l'écoute de la parole, nous asseoir. Et Dieu nous enseignera tous. Arrêtons d'enseigner l'un l'autre, de vouloir enseigner les autres. Car la Bible dit que le Saint-Esprit, le Consolateur, quand il sera venu, il vous annoncera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera. Nous avons le docteur parmi nous. Le docteur, c'est le Saint-Esprit. Et personne, donc l'enseignant, et personne connaît mieux la parole que le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et ce n'est pas un frère qui va enseigner les qui aura besoin d'enseigner les autres. Autrefois, c'était différent. Alors là, il fallait que, ou bien alors, un autre a enseigné les autres. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas nécessaire. Chacun peut s'épargner ce temps et remercier le Seigneur pour le privilège d'avoir entendu ce que le Seigneur, dans ce temps, dans ce jour, dit. Car, dans ces jours, dit. Car nous ne savons pas comment est-ce que dans l'un ou bien dans l'autre, le sol est déjà préparé et quand est-ce que ce qui a été semé va porter son fruit. Nous n'avons qu'un seul devoir, c'est d'ensemencer la semence, de planter la semence. Et Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a accordé la croissance par sa grâce. Et la même chose a lieu maintenant. Il a été planté, si vous voulez arroser, faites-le. Mais d'arroser doit venir d'en haut. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui étaient là, qui avaient prié pour la pluie spirituelle, c'est-à-dire parmi ceux qui ont reçu la parole de Dieu. D'arroser de manière divine ne veut pas dire simplement de venir et puis de dire quelques mots ou bien de prêcher ou bien de parler, mais de prier pour eux, pour ceux qui ont écouté la parole de Dieu, pour qu'ils puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour que la semence qui a été reçue dans leur cœur soit abreuvée et survienne et soit manifestée en nouvelle vie. Mais bien, mes frères et sœurs, nous voulons prier dans ces jours, prier pour que Dieu tous nous baptise, nous remplisse d'esprit et de feu comme le jour de la Pentecôte autrefois. Rien d'autre nous voulons faire que être une église, une église remplie d'esprit et expérimenter une effusion originale du Saint-Esprit, une effusion originale du Saint-Esprit. Mais nous devons ouvrir notre bouche pour commencer à louer le Seigneur. Car il est écrit dans les psaumes 41, verset 12, « Ouvre ta bouche et moi, je la remplirai. » Celui qui ferme sa bouche, qui ne l'ouvre pas, ça veut dire que le cœur n'a même pas, le cœur ne trouve pas l'occasion nécessaire à le faire. Nous devons ouvrir notre bouche pour louer le Seigneur. Et c'est à ce moment-là que le fleuve de sa bénédiction se répandra en nous. Aujourd'hui, nous voulons remercier le Seigneur de ce que, après un long temps ainsi, il a apparu de manière surnaturelle et qu'il a commencé à agir puissamment dans notre génération pour que nous puissions avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Dieu n'aurait pas pu nous accorder un plus grand privilège que ça. Nous pouvons dire, nous avons reçu l'héritage, notre part. Un grand héritage nous a été accordé. Que notre Dieu, aujourd'hui, puisse allumer son feu dans nos cœurs et déverser son esprit pour que nous puissions lui apporter l'action de grâce qui lui est due. Et je pense que nous venons maintenant devant pour le faire et pour prier ici et adorer ensemble. Levons-nous tous et venons devant tous pour de tout notre cœur remercier le Seigneur.